Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors le titre de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Vous vivez votre vision ». Et souvent, dans les messages chrétiens, on parle de la vision, on dit, voilà, recevez la vision de Dieu, une vision spirituelle, une idée de ce que vous voulez faire de votre vie. Et puis on essaye d'amener les gens à rentrer dans cette vision, à capter ce que peut-être la personne est en train de partager. Mais moi, je voudrais dans un premier temps vous dire, de toute façon, vous vivez votre vision. Ce que vous vivez actuellement, c'est la somme de ce que vous êtes fait comme image mentale. Voilà, les enfants, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Alors, ils vont dire, voilà, je serai ceci, cela. Ils pensent peut-être à une activité professionnelle. Et cette image peut les accompagner pendant un certain temps. Et donc, peut-être, certaines choses vont-elles se réaliser et vous vivrez le résultat de ce que vous aurez toujours imaginé ou pensé. Donc nous sommes au-delà du côté spirituel, voire presque mystique de voir une vision, nous sommes le résultat de l'ensemble de choses que nous avons vues. On applique déjà ce principe, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça pour l'appliquer, vous le vivez naturellement. On est beaucoup plus sollicité par ce que nous voyons que ce que nous entendons. C'est pour ça que quand la publicité vous fait l'éloge de toutes sortes de junk food, la mauvaise nourriture qu'elle ne veut pas manger, et en dessous ils mettent « attention, n'en mangez pas trop, faites du sport, pas trop grave », ça n'a aucun impact chez les gens parce qu'ils sont happés par le côté visuel, et puis le reste on le fait juste pour, voilà, parce que c'est la loi qu'on a décidé de, mais en réalité les gens, ils font ça, ils appliquent le principe qu'ils vivent ce qu'ils voient. Donc ce que vous voyez, c'est donc l'ensemble des modèles qui nous façonnent. Souvent on reproduit des choses qu'on a vues chez nos parents, qu'on ait eu envie de les imiter ou qu'on n'ait pas eu envie, on s'est forgé un modèle et nous sommes le résultat de ça. Donc nos idées, on applique la vision de nos idées. Nos idées, c'est un ensemble de choses que nous croyons importantes. Donc c'est ça qui nous façonne, qui nous fait que nous vivons d'une certaine façon en fonction de ce que nous avons vu, de nos pensées, de nos idées. Et en parlant de vision, on peut penser télévision. Hein, la télévision a un impact énorme dans la vie des gens quand on pense qu'en moyenne, ils y passent 3-4 heures, juste en moyenne. Hein. Donc ça veut dire que ceux qui font baisser la moyenne comme nous, d'autres la font monter énormément. Et donc ils sont influencés. Donc maintenant, télévision c'est pour certains, pour d'autres ça peut être vision par rapport à l'ordinateur, la tablette, tout ce que vous voulez, mais toutes ces choses forgent notre vision de nous-mêmes et de notre vie. Maintenant, au-delà de faire juste un constat, le plus important c'est d'abord que nous puissions prendre quelques instants de réfléchir à la vision que nous avons de nous-mêmes. Quelle est la vision que tu as de toi ? D'accord ? Alors, la Bible a beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses très précises. Dans Jean 1, au verset 22, les gens qui sont allés vers Jean-Baptiste lui posent la question. Ils posent la question en disant, « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Hein, c'est tellement important. « Que dis-tu de toi-même ? » Hein, si, j'ai souvent remarqué que les gens, des fois certains ont du mal à parler d'eux-mêmes. Peut-être parce que la vision qu'on a de soi-même n'est pas celle qu'on voudrait. On est un peu gêné, on voudrait donner une autre image, ou il y a des choses qu'on voudrait qu'elles soient mieux dans notre vie. Donc, quand on vous pose la question « Que dis-tu de toi-même ?», c'est un peu difficile. Je vois même dans le monde chrétien, il m'est arrivé que des gens passent par notre église, ou je dis même à des prédicateurs, je dis « Parle de toi-même ». On aimerait bien te connaître toi. Il y en a, ils ont du mal, même en prêchant la parole depuis des années, de parler d'eux-mêmes. Donc, en fait, ils se cachent un peu derrière la Bible. Ah non, je préfère prêcher. Non, on veut savoir toi-même. Qu'est-ce que tu vis? Comment tu te vois? Quelle est ta vie? On n'a pas besoin d'étaler toutes les choses intimes, mais qu'est-ce que tu crois au fond de toi? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Donc, Jean-Baptiste, on lui a demandé, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et C'était pas dans mon idée, mais je vais vous le dire quand même. Jean-Baptiste répond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il a trouvé dans la parole de Dieu quelqu'un qui a été annoncé comme étant la voix qui crie dans le désert, et il a dit, ça c'est moi, c'est mon appel, c'est mon identité, je dois accomplir cette parole. Et il est devenu celui qui crie dans le désert, que Ésaïe avait annoncé des centaines d'années avant. Et il a dit, c'est moi, je suis celui qui doit crier dans le désert. Et donc il s'est lancé dans son ministère de préparer les gens à accueillir celui qui devait venir, Jésus le Messie. Donc il s'est trouvé, il a su répondre. Donc pour nous aussi, que dis-tu de toi-même ? Un autre exemple biblique, c'est Jacques 1:23. Il nous est dit que certaines personnes sont comme, ils ressemblent à un homme qui regarde son visage dans un miroir, et qui après s'être observé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc on peut se regarder dans un miroir, et puis oublier comment on était. Et il nous est dit, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand on regarde dedans, on se voit. On voit des choses. Ah, ça plaît pas toujours, parce qu'il y a aussi des défauts qu'ils ont décrits. Hein. Des fois, il y a des listes de... Et dans les derniers temps, les hommes seront... Toute une liste de péchés, de choses. Donc, des fois, on se recueille. Ah, c'est moi. C'est une chose que je dois corriger dans ma vie. C'est un problème que je dois régler. Et des fois... Le problème, c'est que si on s'en va et on oublie comment on était, on ne va pas agir là-dessus. Rien ne changera. Donc, la vision de toi-même, elle est souvent conditionnée par le regard des autres. En fait, notre vision, ce n'est pas tellement la vision telle que Dieu nous voit, ou même comme nous nous voyons, mais on essaye d'avoir cette vision de soi-même comme les autres voudraient nous voir. Le regard des autres. On dit que c'est particulièrement valable au niveau de l'adolescence. C'est le regard des copains, des phénomènes de bande, comment est-ce qu'on va être accepté. Donc c'est là qu'on a le phénomène que tout le monde s'habille un peu de même genre vestimentaire. Et donc, le regard des autres, mais je pose la question, quels autres ? À qui voulons-nous plaire ? Le problème, c'est que souvent on essaye de plaire à quelqu'un pour se faire aimer de la personne. Mais les deux choses ne sont pas du tout en rapport, en réalité. On a l'impression, si je plais à quelqu'un, alors je vais me faire aimer. Donc on essaye d'être comme la personne pourrait vouloir qu'on soit. Hein ? Vous me suivez ? En fait, on est tout le temps là-dedans. Il faut se libérer de la pensée des autres. Si quelqu'un vous aime réellement, ce n'est pas en fonction de choses extérieures. Des fois, si vous comparez une personne à une autre, pourquoi on est attiré vers quelqu'un ? Ce n'est pas forcément parce que ça correspond exactement à une image que je m'étais faite d'un ami ou d'un conjoint, etc. C'est pas ça. Il y a un mystère de l'amour qui est une attirance, quelque chose qui vient de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de faire des efforts pour essayer de ressembler à ce que les autres pensent. Libérez-vous des pensées des autres. L'apôtre Paul disait à un moment, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. » C'est radical. C'est-à-dire que les gens qui essaient sans cesse de plaire aux gens ne peuvent pas plaire à Dieu. Jésus a dit exactement l'inverse. Il a dit, « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. » Parce que ça vous montre que vous aurez tout le temps essayé d'être agréable aux autres, et il y a des situations dans lesquelles vous n'aurez pas été agréable à Dieu, parce que vous aurez fait des compromis. On voit ce que ça produit dans notre société, dans le monde politique. Vous avez des hommes politiques qui sont des leaders, des visionnaires, qui ont des bonnes idées, et des fois personne ne les suit. Et à l'inverse, vous avez des hommes politiques, ils font des sondages d'opinion, et ensuite ils disent « Mon idée est... » En fait, c'est le résultat de ce que les gens attendent. Donc, ce ne sont pas des dirigeants. Ce sont simplement des gens qui sont assez habiles pour être opportunistes et se positionner par rapport à ce que l'ensemble des gens voudraient. Donc, et ce n'est pas une garantie que ce soit une bonne chose pour eux. Donc, il faut choisir un moment où être prophète, parler de la part de Dieu, ou être simplement quelqu'un qui suit le mouvement. Donc, soyons nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'Antiquité, il y avait le fameux « connais-toi toi-même ». Ça vous parle ? Donc, connais-toi toi-même, c'est où? Ah, originellement, Antiquité? Non, plus loin. Sur le fronton du temple de Delphes, consacré à Apollon, on pouvait lire « Connais-toi toi-même et laisse le monde aux dieux ». Ça, c'était la pensée des Grecs. Mais en fait, c'est devenu célèbre parce que Socrate l'a repris pour dire à ses disciples. Donc, il y a diverses interprétations de cette formule, mais l'histoire, c'est l'interprétation de Socrate, qui a vécu en 470 jusqu'à 399 avant Jésus-Christ. Et donc, il a laissé tomber la deuxième partie, donc laisse le monde aux dieux. Il a juste focalisé sur ce qu'il disait à ses disciples, c'est connais-toi toi-même. Et donc, voilà, ceux qu'il croisait, il disait, apprends à te connaître toi-même. Et il écrit un moment à un ami qui s'appelait Xénophon, ou un disciple, et dit, cher Xénophon, que les hommes ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils se connaissent eux-mêmes, ni plus malheureux que lorsqu'ils se trompent sur leur propre compte. Il y a aussi de la sagesse dans la philosophie de Socrate qui peut nous illustrer notre propos. Donc, pour Socrate, la connaissance de soi, c'est la première des sciences. Donc, on ne cherche pas partout ailleurs, dans tout l'univers, et puis finalement, on n'a jamais appris à se connaître soi-même. Et la Bible dit aussi des choses par rapport à soi, puisqu'on vient de le voir. D'accord ? Et donc, d'autres ont commenté ça. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est une citation. Donc, il est demandé de réfléchir en soi au sens de la vie et de poser la question d'un principe et d'un créateur séparé du monde et infiniment supérieur. C'est important, séparé du monde et infiniment supérieur, parce que ça bat en brèche le côté les hommes ont inventé des dieux. Non, il est séparé du monde, il est infiniment supérieur, et donc nous apprenons à le connaître en cherchant des choses sur soi-même des fois. Et de soi-même, bah, on se rend compte, bah, voilà, je suis limité, j'ai besoin, je dois trouver ma place dans l'univers, trouver le sens de ma vie. Tout ça, vous ne le découvrirez jamais si vous n'êtes pas intéressé par faire cette recherche et cette, découvrir cette connaissance de qui vous êtes, de où vous allez, tout ça. Et donc, une autre interprétation, c'est, je pense qu'avant de juger autrui, il est préférable de faire connaissance avec soi-même, parce que souvent, on retrouve chez l'autre le reflet de ce qu'on est au plus profond de soi. Encore une fois, le reflet, c'est de nouveau l'image, le miroir. Comme on a vu tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est comme un miroir, ben les autres aussi. Par exemple, un exemple précis, c'est quand on voit des choses chez les enfants, des comportements, ben on se dit, ah ben oui, c'est tout moi, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est aussi le reflet. Donc voilà. Alors, d'accord, vision de soi, chercher à se connaître. Voilà les choses que je vais vous encourager à faire. Un deuxième point pour aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est ce que tu vis. D'accord ? Pour nous, ce qui nous intéresse dans notre vie d'église, dans notre vie de chrétien, c'est pas tellement d'accumuler encore et encore des connaissances de Bible, c'est de pouvoir expérimenter quelque chose et le vivre réellement. Alors là, j'ai encore une fois quelque chose que je vous propose par rapport à votre propre vie, comment elle est organisée. Alors vous avez peut-être jamais pris un papier, stylo et tout. Mais comment est-ce que je vais organiser ma vie? Point numéro 1, point numéro 2. Souvent les choses viennent un peu spontanément, mais si on prend le temps d'un peu de réfléchir à la façon dont je vis, si vous n'en êtes pas content, alors vous pouvez peut-être procéder à certains changements. Comme par exemple, si vous me permettez encore, on pourrait prêcher ensemble la version ado. Comment la vie des ados est organisée? Toute ressemblance sera un pur hasard. Et personne, non, mais personne n'est visé. Mais c'est des choses qu'on voit autour de nous et qu'on a peut-être aussi expérimenté parce que si on est grand, c'est qu'on a été ado à un moment ou un autre. On peut dire notre vie est organisée d'après quatre catégories pour faire simple. Premièrement, qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Chacun peut répondre à ça. Le matin, quand vous vous réveillez, je dis pas parce qu'il faut se lever et aller au boulot. J'ai dit le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, par exemple? À quoi je pense en premier? Les choses les plus importantes de la vie, c'est pas compliqué, hein. C'est celles qu'on a envie de faire. Celles qu'on a envie de faire le plus possible, ou le plus longtemps possible. Donc, Ce qui compte le plus, ce qui compte beaucoup, ce qui compte un peu et ce qui ne compte pas. C'est les quatre catégories. C'est très simple, en fait. Donc, qu'est-ce qui compte le plus? Si on prend maintenant un exemple pour les ados, qu'est-ce qui compte le plus? Les filles et les garçons. La plupart, c'est ça, hein. Vous vivez dans le même monde que moi ou pas? Pour les ados, c'est les filles ou les garçons, selon le cas. C'est ce qui compte le plus. Mon look, vision de toi-même, quelle image je donne? Hein, actuellement, on a avec tous ces téléphones portables qui font des photos, on a le phénomène des selfies. Hein. Vous êtes au courant? Fait une photo de soi. Alors, il y a ceux qui veulent pas être pris en photo, et vous avez l'autre extrême qui se prennent tout le temps en photo. Alors, voilà ce que je fais maintenant. Tic, 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 tic. Toute la journée. Mais tout ce que je dis, c'est pas du tout pour critiquer, c'est juste pour... Voilà le monde dans lequel on vit, la situation dans laquelle les gens sont. Et alors, vous avez les jeunes filles, ils font la photo, et puis les autres, « Oh, t'es belle, oui, mais toi aussi !» On s'écrit X fois. Pourquoi? Parce qu'il y a cette recherche d'être aimé, d'être apprécié, la valeur, et ces choses. Alors pour moi, quand je vois ces choses, je dis, qu'est-ce qui compte le plus? Ça, c'est tout en haut chez eux. D'accord? C'est tout en haut, parce que ça occupe le maximum de leurs préoccupations. Ensuite, qu'est-ce qui compte beaucoup? La réponse, qu'est-ce qui compte beaucoup, si ce n'est le plus, c'est actuellement, c'est le portable. On a besoin d'être tout le temps en contact avec le portable, à tout moment. On parle là de, on est dans la vraie vie, hein. On veut tout le temps pouvoir rester en contact, on a besoin de l'avoir sur soi tout le temps, pour regarder, est-ce que quelqu'un m'a écrit, est-ce qu'il y a un message, est-ce que autre chose pour rester en contact. Alors, pour d'autres choses, ça peut être le sport, les amis, les loisirs, sauver les animaux. Vous voyez, il y a des gens, c'est très important pour eux, il faut sauver les animaux. Qu'est-ce qui compte un peu? Un peu chez les ados. L'école, un peu. Il y a quelques énergumènes un peu différents des autres pour qui ça compte beaucoup. Mais sinon, ça compte un peu. Voilà, ce n'est pas la priorité. La famille, ça compte un peu. Souvent, dans une certaine période de notre vie, les amis comptent plus que la famille. L'écologie, ça compte un peu, parce que ça fait bien quand même de dire on s'occupe de la planète et tout. Alors, qu'est-ce qui ne compte pas? Chez la jeunesse, les ados, par exemple, la religion, pratiquement pas. Dieu, religion, Dieu, c'est un peu mélangé, parce qu'il y en a qui font pas bien la différence. L'engagement politique, quasiment pas. La retraite, alors, ça compte pas pour eux. Je vous donne juste cette illustration, cet exemple, pour qu'on réalise que notre vie est organisée. Et maintenant, on va pas prendre des heures pour ça, mais les adultes aussi, vous faites votre catalogue. Et le plus important, c'est de réaliser que si ceux qui ne comptent pas pour moi utilisent le maximum de mon temps, il y a quelque chose qui joue pas, voyez ? C'est ceux qui comptent le plus dans lequel je dois investir le plus. Ceux qui comptent beaucoup, je dois investir beaucoup. Ceux qui comptent peu, je dois y investir peu. Et ceux qui ne comptent pas, je ne dois pas perdre mon temps avec ça. Il suffit maintenant simplement de voir est-ce qu'il y a des choses que je veux remettre à leur place. Donc moi, je vous dis pas, voilà la liste type telle que vous devez organiser votre vie. Absolument, mais en tout cas, il faudrait quand même que vous arriviez à un moment donné à ce que si vous réorganisez votre vie, dans la première catégorie, qu'est-ce qui compte le plus, Dieu soit tout en haut. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il soit tout en haut. Jésus a été radical, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais donc, tout en haut. C'est pour ça que c'est important aussi que on ne confonde pas Dieu et religion. Dieu a la place tout en haut. Mais pour moi, si je confonds Dieu, religion, église, alors on a des fois on a tout faux. Alors on met tout en haut, par exemple les réunions. C'est important de se réunir, soit entre chrétiens. Mais ma vie n'est pas basée sur une réunion. Ma vie est basée sur la place que Dieu a dans ma vie. Donc moi je mettrai Dieu tout en haut. Ensuite, si vous êtes marié, vous mettez le conjoint immédiatement en deuxième position. les enfants et les parents en troisième position, on est toujours dans la catégorie de ceux qui comptent le plus. D'accord ? Si vous n'avez pas d'enfants, ce sont vos parents qui comptent le plus dans cet ordre d'idées. Et si vous n'avez plus de parents, ben c'est vos enfants qui comptent le plus. Donc c'est la famille. Ça c'est la famille. Dieu a créé la famille. C'est ce qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Et des fois quand il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez vous tourner vers la famille. Ce qui compte beaucoup, alors là, c'est plutôt au niveau de ce que vous aimez. Bon là, moi je mets l'Église. L'Église compte beaucoup. Parce qu'il nous est dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est quelque chose qui donne une stabilité. C'est là où, ben, quand ça va pas, je peux avoir des gens qui prient avec moi, qui s'accordent avec moi. C'est là où je reçois l'enseignement de la parole de Dieu. Je peux partager mes expériences. C'est là où on me comprend aussi, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, vous leur parlez, ils vont rien comprendre. Vous n'êtes pas en communion. Donc, c'est des choses qui comptent. Et après, ça sera selon vos goûts, les loisirs ont leur place. Vous n'allez pas me dire que ça compte pas beaucoup, les loisirs. Parce que quand on voit dans notre société les gens, tout ce qu'ils sont prêts à dépenser pour les loisirs, donc c'est quelque chose qui a un impact très fort dans leur vie. Le sport, ça peut compter ou pas. De toute façon, vous en avez besoin pour votre santé, de bouger. Il ne s'agit pas forcément de faire un sport dans un club, etc. Mais on a besoin de prendre soin, d'être en forme. Ce qui compte un peu, alors là, ça dépend. Est-ce que pour vous, le travail, la carrière, ça compte beaucoup ou peu? En tout cas, si vous dites que ça compte le plus, il y a un problème. Oui. Moi, je mettrai jamais tout en haut. Oui. Mettez-le dans une catégorie moyenne. Ne dites pas non plus, ça ne compte pas. Parce que sinon, ça voudrait dire que, en fait, vous attendez à ce que les autres travaillent pour vous, c'est ça. Alors, ça dépend de l'engagement de chacun. L'engagement politique, moi, je trouve que c'est important qu'on pèse sur certaines décisions qui concernent la société et tout. Mais alors, il y a des gens, ils sont passionnés par ça, ils vivent que de ça, etc. Moi, je considère que, bon, il y a des jours dans la semaine où politique, je veux rien entendre. Le dimanche, par exemple. Il faut quand même souffler un petit peu à un moment ou un autre. Et donc, voilà. Alors, organiser, qu'est-ce qui ne compte pas? Cette catégorie, vous devez bien la scruter régulièrement, pour voir s'il n'y a pas trop de choses dans votre vie où vous perdez du temps pour ce qui ne compte pas. Des choses qui ne resteront pas. Jésus a dit, par exemple, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, accumuler. Beaucoup de gens, ils accumulent. Mais Jésus a donné l'exemple dans les évangiles, il a dit... Voilà, un homme avait accumulé beaucoup de choses. Il a dit, voilà, maintenant, mon âme, réjouis-toi, mange, bois. Tu as accumulé beaucoup de choses. Il a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé, ça sera pour qui? Donc, la Bible nous donne aussi des exemples pour ça. Mais peut-être vous trouverez vos propres idées. Donc, penser, changer, agir, mais pas seulement des mots. 1 Jean 3, 18 nous dit... Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Donc pas seulement, ouais, c'était bien ce que tu nous as dit là ce matin, sur les catégories, vraiment, il y a de l'idée. Non mais si vous en faites rien du tout, on fera encore le même bilan dans un an et après on pourra faire la liste des heures que vous aurez gaspillées pour des choses qui n'en valent pas la peine. D'accord? Donc, essayez de voir que toutes ces choses trouvent leur place. Je ne dis pas non plus qu'il faut être obsédé par la rentabilité. Vous voyez, je ne dois pas gaspiller du temps. Donc, il faut que je bosse tout le temps. Quelque chose qui m'a libéré un jour, c'est que j'ai vu une vidéo de Joyce Meyer, pour ceux qui la connaissent, donc cette enseignante de la parole de Dieu, et elle a dit, et puis des fois, ce que j'aime faire, c'est prendre un magazine et le feuilleter. Je ne me serais pas attendu à ça de la part de Joyce Meyer. On imagine, ouais, Joyce Meyer, elle doit être en prière 24/24, sauf quand elle lit la Bible ou qu'elle prêche, quoi. Non, mais c'est parce qu'on est un peu déformé. Il est impossible pour quelqu'un d'être performant 24/24. Notre cerveau a besoin de temps en temps de faire quelque chose qui ne soit pas en train de le stimuler et de le solliciter à fond sans cesse. Donc, regardez, feuilleter un magazine, regarder des photos, des images ou lire des articles qui ne soient pas forcément essentiels pour votre vie et votre éternité, ça permet de travailler à votre équilibre. Ça peut aussi être la fonction d'un film ou de regarder quelque chose pour se détendre. Bon, si vous regardez des films d'horreur pour vous détendre, je sais pas, mais là ça va être un peu compliqué. Voilà. Trouvez-vous aussi des activités qui ne soient pas hyper productrices dans l'immédiat, mais qui produisent finalement une bonne chose pour notre vie à long terme, parce que ça nous équilibre. Voilà, donc les devoirs à la maison, hein, c'est le papier, le crayon, réorganiser votre vie. Et troisième dernier point, comme on l'a vu mardi soir, on avait étudié 1 Corinthiens 12, 13, 14, et à la fin de 12, l'apôtre Paul dit « Et je vais vous montrer une voie par excellence ». Donc, le fait de réfléchir à soi-même, le fait de réorganiser sa vie, on peut rester dans un phénomène intellectuel, moi, comment je vais faire, etc. C'est pour ça que je dis la voie par excellence, c'est d'avoir recours à Dieu. Il faut à un moment donné transcender, ce mot compliqué, mais comme transport, ça nous porte d'un endroit vers l'autre. Mais là, transcender, ça veut dire ça nous amène d'une réalité dans une autre. De notre monde naturel, physique, ça nous emmène dans le monde spirituel, dans le monde là où Dieu est. Alors, vous faites comme vous voulez, soit vous amenez Dieu dans votre réalité, ou vous allez dans la sienne, mais l'important c'est qu'il y ait la connexion. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, voyez ? Donc on n'a pas besoin d'analyser où on est exactement. L'important c'est qu'il y ait cette communication. Jésus a dit, je vois maintenant les cieux ouverts. Les anges de Dieu, ils montent, ils descendent. Il y a une communication sans cesse. La fameuse échelle de Jacob qui devient le principe spirituel d'une communication entre le ciel et la terre. Et cette communication, je demande que vous soyez attentifs à ça, pour vivre cette élévation dans le sens que il nous est dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais comment ? Spirituellement, il faut réaliser que je suis pas juste assis là sur ma chaise, ici dans cet endroit, mais je suis en même temps spirituellement dans une position céleste en Jésus-Christ. Donc pour transcender notre état, pour nous amener à avoir cette dimension spirituelle qui nous permettra d'effectuer un certain nombre de changements et de transformations, d'abord il faut qu'on se sente légitime. Légitime, ça peut penser à la loi, hein, légitime. Mais c'est parce que tout dans l'univers est régi par la loi et la justice spirituelle. Dieu est juste et il faut qu'on s'applique à la justice de Dieu. Jésus a été fait pour nous pécher afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est que comme ça que légitimement on peut être assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc il y a un ami là qui souffre dans sa santé et dont je parlais. Il est en train de se demander s'il y a encore des choses où il n'est pas en ordre avec Dieu et de se tourmenter. On a dit, mais repose-toi dans la grâce de Dieu maintenant. La justice de Dieu, c'est pas notre propre justice, c'est celle qu'on reçoit de lui. Donc, nous sommes justes en Christ, nous ne sommes pas indignes, nous pouvons dépasser notre état et nous pouvons donc de cette façon réaliser qu'on est enraciné, pas seulement ici-bas, mais aussi dans l'éternité. C'est ça qui est formidable pour nous. C'est qu'on vit dès maintenant la vie éternelle. On n'espère pas une vie éternelle future. On est déjà en relation avec Dieu pour l'éternité. Alors c'est l'unique moyen de ne pas tomber soit dans l'aveuglement de l'action pour l'action, agir, faire des bonnes œuvres, plaire à Dieu, gagner notre paradis, etc. Ou alors recherche de l'évasion, distraction pour surtout pas penser à des choses importantes et toujours s'échapper. Voyez, de cette façon, on peut vivre le maintenant et pour l'éternité. Jacques 1 nous disait, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait descendent d'en haut. Voyez, une connexion entre le haut et le bas. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ça vient d'en haut. C'est pas seulement ici-bas. Vous ne pouvez pas chercher à vous élever d'en bas. Quelqu'un a dit, c'est comme quand un homme mettrait ses pieds dans un seau et essaierait de tirer pour se monter lui-même, se hisser. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc, conformé, je lis toujours dans Jacques 1, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure, tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas seulement écouter, c'est ça qui est important. Personnellement, avec la collaboration de Samuel, nous avons des centaines de messages qui ont été enregistrés ici. Des centaines, hein, pas juste 3-4, pas juste quelques dizaines, des centaines ont été enregistrés. Même si vous les écoutiez en boucle et vous rajoutez encore tous les milliers qui sont disponibles par Internet, au bout d'un moment, vous n'aurez quand même pas de croissance spirituelle. La croissance sera zéro. Zéro. Parce que ça ne dépend pas de la semence seulement. Je vous jardinier comprend ça, même si vous n'êtes pas très expérimenté en jardinage. Si vous prenez un sac de semences, si vous versez tout sur quelques centimètres carrés, vous n'aurez pas une récolte abondante. Hein. Peut-être même vous n'aurez rien du tout. Parce qu'il faut d'abord travailler le terrain, et puis il faudra arroser, il faudra biner, il faudra émonder. La Bible dit même, elle en parle, et des fois il faut mettre du fumier. C'est quand même aussi un miracle de Dieu que quelque chose qui finit sur le fumier puisse de nouveau contribuer à la vie. Je suis même émerveillé par le cycle de la vie tel que Dieu l'a conçu. Mais c'est simplement des réalités. Donc dans notre vie aussi, c'est pas juste la semence et encore de la semence. C'est aussi tout ce que j'ai dit. Donc, en effet, on continue le verset 23. Si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme, cette fois-ci on l'avait lu le miroir tout à l'heure, un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui après s'être observé s'en va, il oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. On peut être heureux dans son activité et dans son travail. Et dans son travail, ne pensez pas simplement votre job et ce qui pourvoit au budget de votre ménage. Mais votre travail, c'est l'ensemble de vos activités, y compris le travail sur vous-même, intellectuel et tout ce que vous voulez. C'est un ensemble d'activités de votre personne. Conclusion que nous trouvons de nouveau dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 1. J'ai dit, ce qui est important, c'est d'expérimenter. Et l'apôtre Jean, il dit la chose suivante. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, là on est tous d'accord, on a entendu des choses, mais aussi ce que nous avons vu de nos yeux. Donc, d'abord on entend, la foi vient. Ensuite, on voit, on a la vision. Vous rappelez, j'ai parlé de la vision. Vivez votre vision. Maintenant, on voit ce que nous avons contemplé. Contemplation, ça veut dire, je jette pas un coup d'œil, je m'en vais. Contemplation, je suis, c'est formidable, je reste devant cette image. Je la regarde encore et encore. Il y a des gens qui peuvent être dans un musée, devant un tableau. Et ils vont y rester pendant des heures. Nous, on se dit, qu'est-ce qu'ils font là? Je m'ennuie, là. Allons plus loin. Et non, mais la personne, elle peut être devant le tableau et contempler et voir encore des choses, même que l'artiste n'avait même pas pensé y mettre. Parce que dans notre tête, l'imagination, ça marche. Voilà, contempler, oui. Et aussi que nos mains ont touché. Là, il y a quelque chose qu'on expérimente. Le sens participe. Concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Donc tout ça, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle était auprès du Père, s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Nous écrivons cela non pas pour vous ennuyer, vous embêter, etc. Mais c'est écrit pour que votre joie soit complète. D'accord ? Donc, voilà une bonne nouvelle. Alors je vous encourage vraiment à prendre vos responsabilités pour votre propre vie. Ne fuyez pas, mais avancez. Dernièrement, j'avais parlé plusieurs fois du héros, j'avais parlé d'avoir de l'assurance, des choses comme ça. C'est un peu le chemin du héros que nous sommes. Tous les jours, hein, on est appelé à mener un chemin héroïque. Donc, prenons ce chemin. L'héroïsme, c'est pas simplement trouver une nouvelle vérité, une révélation, un truc. Mais c'est le courage de mettre en pratique ta vision pour ta vie. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org.